Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus, ton Fils, qu'on est approché ce matin devant toi. Parce qu'on le sait, Seigneur, sans ta parole, sans la voix de ton esprit qui nous parle par ta parole, où est-ce qu'on va aller? On a besoin de connaître ta révélation, connaître ta pensée, afin que notre foi soit pas basée sur des fables ou des raisonnements humains, mais que notre foi soit basée sur ta parole, ce que tu as déclaré, et que notre marche de tous les jours soit alignée dans la direction de ta parole. Je te demande de parler à nos cœurs ce matin par ton esprit, puis on refuse dans le nom de Jésus toute distraction, tout dérangement, afin que notre esprit soit concentré sur ta parole. Je remets ce temps d'étude-là de ta parole entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On continue la petite étude qui est la dernière de cette série-là, qui est la 15e leçon, de premier pas, parce que c'est comme une introduction à la vie chrétienne, c'est les choses de base que tout le monde devrait savoir. Puis si on ne le sait pas, mais c'est pour ça que là on les étudie, afin qu'on les sache, les choses de base. Le titre du message à matin, c'est comme une continuité des deux derniers. Il y a deux semaines, deux prédications antérieures, j'ai prêché que Jésus revient bientôt. Après ça, faire une suite, j'ai prêché qu'est-ce qu'il y aurait après, qu'il y aurait un règne de 1000 ans, que les chrétiens régneraient avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est la première résurrection que, je sais pas si vous le savez, mais dans pas long, Jésus revient, puis vous allez être enlevé en un clin d'œil, puis vous retrouvez avec lui sur un nuage. Ça, c'est l'enlèvement. Si tu appartiens à Christ, il va venir te chercher, puis tu vas être avec lui pour l'éternité. Puis le Christ s'en vient pour faire une job sur la terre. Déverser, premièrement, la colère de Dieu qui va s'abattre sur les nations, puis les chrétiens ne seront pas là pendant la colère de Dieu. J'ai pas sorti tous les versets qui parlent de ça, mais il y a plusieurs versets dans le Nouveau Testament que Dieu nous a dit qu'on n'est pas destiné à la colère. Mais quand Jésus revient, c'est pour premièrement établir sa colère sur la terre, puis ça va être laid déjà d'avance avec tous les sauts et les trompettes qui vont avoir déjà eu lieu sur la terre. Mais Jésus il a abrégé ces choses-là à cause des élus, mais quand il vient nous chercher, c'est pour déverser sa colère sur les nations qui sont rebelles à sa parole, qui sont rebelles à son autorité, qui le refusent comme roi. Parce que Dieu a créé tout l'univers matériel qu'on voit pour un seul but, pour donner la royauté à son Fils. Tout l'enjeu est là. Puis on était tous en partant des rebelles, pécheurs. Mais il a pourvu un plan pour qu'on puisse se repentir puis se tourner vers lui puis dire, « Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir, je veux aller où ce que tu iras, puis je veux vivre avec toi l'éternité. » Puis là, il te donne la grâce, le pardon de tes péchés, puis il te donne son esprit, puis il dit, « Là, tu m'appartiens, je t'adopte dans ma famille, tu deviens un enfant de Dieu, tu es un fils ou une fille de Dieu, puis tu fais partie des élus en autant que tu persévères jusqu'à la fin sans le renier. » Puis là, on attend son retour, parce qu'on le sait que notre Seigneur va prendre le contrôle de cette planète. Là, présentement, on est dans le temps des nations. Dans pas long, là, plus que ça va, les sceaux et les trompettes sont en train de se déverser. Puis dans pas long, Jésus revient. Puis mec, il revienne, c'est pour venir chercher son Église. Puis là, il va déverser sa colère. Le premier qui va être frappé, on l'a vu un peu au début de l'autre étude, le premier qui va être frappé, c'est l'Antéchrist, parce que le trône de la bête et tout le système mondial qui va savoir rebeller contre Dieu, puis qui va être en place, qui va être assis dans le temple de Dieu, puis il va se faire détruire par l'éclat de l'avènement du Seigneur et par le feu qui va sortir de sa bouche. Puis là, Jésus va établir son règne pendant 1000 ans, un règne de paix sur la terre, parce que nous, on va être des sacrificateurs de Dieu, puis on va régner avec Jésus pendant les 1000 ans. Là, je suis rendu là, le chrétien et sa vie dans la cité éternelle. Qu'arrivera-t-il à la fin du 1000 ans? Apocalypse 20, je vais vous lire ça rapidement, au chapitre 10. Chapitre 20, excusez, au verset 10. À Parce que ça nous est dit qu'à la fin du 1000 ans, le diable va être relâché de sa prison. Pendant ce 1000 ans-là, le diable sera pas sur la terre en train de séduire les nations. Fait que ça va être un règne de paix pendant 1000 ans. Mais à la fin du 1000 ans, Satan va être relâché. Il va séduire les nations, puis ils vont vouloir encore faire la guerre aux saints à Jérusalem. Puis c'est en vain, parce que les saints, c'est des êtres ressuscités, immortels. Puis on va le voir dans certains versets plus tard. Mais Jésus, il va mettre un terme à tout ça. Là, ça dit, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. » Ça, c'était à la fin du 1000 ans. « Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Puis j'ai vu un grand trône blanc. Ça, c'était après le 1000 ans. « Et celui qui était assis dessus. » La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Là, ici, je suis en train de voir juste un survol. Là. Je n'irai pas expliquer tout ça en détail, mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'à la fin du 1000 ans, le diable va être relâché. Ils vont vouloir faire la guerre à Jésus et à ses saints à Jérusalem, si on le voit dans l'autre étude qu'on a vue avant. Puis ça dit que, puis là, Dieu va dire, c'est assez. Puis là, il va y avoir le feu qui va descendre du ciel. Puis le diable qui les séduisait, qui avait été relâché pour les séduire, qui les séduisait, lui, va être pris, puis ça va être son jugement qui est déclaré, et un jugement éternel. Le diable va être jeté dans l'étang de feu, tous ses démons avec lui, parce que il y a un autre verset qui nous dit que l'étang de feu a été créé pour le diable et pour ses anges. C'est le lieu de perdition, le lieu de jugement où ce que le diable et ses démons vont être jugés éternellement. Ce que le monde appelle l'enfer, ça s'appelle pas l'enfer dans la Bible, ça s'appelle l'étang de feu, un lac de feu. C'est un lieu qui a été créé pour le jugement du diable. Puis à la fin du 1000 ans, ça dit que le diable, il va être jeté dans l'étang de feu. C'est fini après. Après que son jugement a été donné, on n'entendra plus jamais parler de lui. On ne le reverra plus jamais faire quoi que ce soit pour troubler la création de Dieu. Ça nous dit aussi qu'il y a un autre jugement qui va avoir lieu après celle du diable dans la même période, c'est le grand trône blanc. C'est le jugement des nations qui n'étaient pas sauvées, qui n'étaient pas inscrites dans le livre de vie. Ça dit que toutes les morts, depuis Adam et Ève, les premiers qui sont venus au monde, jusqu'à les derniers morts du règne de 1000 ans, tous ceux qui sont morts dans le péché vont ressusciter. Parce que la première résurrection, c'est nous qui revient sur la terre, mais la résurrection de tous les autres morts, ça va se faire au grand trône blanc, la résurrection de tous les morts. Ça dit, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Même si une personne s'est obstinée toute sa vie, oh ben moi quand je m'en vais dans le cimetière. C'est fini, il n'y a plus rien, ça s'arrête là. Même si le gars sera 120% convaincu que ça s'arrête là, c'est bien de valeur, c'est pas lui qui décide. C'est la Bible qui est déjà déclarée que tous vont ressusciter. Si tu étais parmi ceux qui ont été rachetés par Dieu, tu vas ressusciter à la première résurrection, puis tu as la vie éternelle pour toi. Puis si tu es mort dans tes péchés, tu vas ressusciter à la deuxième résurrection. Puis c'est pour passer devant le grand trône blanc, puis être jugé selon tes œuvres. Ça le dit bien au verset 12. Ils furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans leur livre, dans le livre qui va être là. Puis, après ça, ça dit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le jugement éternel. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas d'endroit qu'on va mourir, qu'on va aller souffrir un bout pour pouvoir expier nos péchés puis pouvoir se sauver par notre souffrance. Parce que c'est ça que ça enseigne le purgatoire de l'Église catholique. Et c'est une fausseté, ça n'existe pas dans la Bible. Soit tu meurs pardonné ou tu meurs dans tes péchés. Si tu meurs dans tes péchés, tu vas avoir à ressusciter pour comparaître devant le grand trône blanc. Puis là, c'est le jugement éternel qui t'attend parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Tu es jeté dans l'étang de feu pour l'éternité. Où ce qui est le diable et le faux prophète et l'antéchrist. Puis ils vont être tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Faut pas prendre notre vie à la légère puis penser, oh, c'est juste un conte, c'est juste une légende, c'est juste un mythe, c'est juste une belle histoire pour les enfants. C'est pas une histoire. C'est la vérité. Enseignée par Jésus et par les apôtres. Qu'il y a une résurrection de tous les morts, mais on va pas tous à la même place puis il y a juste deux endroits. Tu fais partie des élus qui vont vivre l'histoire sans fin avec le Seigneur ou tu vas être parmi les perdus puis être rejeté de la gloire de Dieu, privé de sa gloire pour l'éternité. La résurrection des croyants et les changements que cela apportera. Je vais en voler quelques versets qui vont nous parler des points positifs pour tous les croyants qui vont avoir eu part à la première résurrection. Tous ceux qui vont être ressuscités à l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer de notre corps? Il y a des versets qui parlent de ce qui va se passer dans notre corps. C'est des beaux versets, c'est là-dessus qu'il faut baser notre foi, sur les révélations des apôtres et de Jésus lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit sur notre origine? Ça, c'est une première chose qu'il faut réfléchir. Parce qu'on a entendu des idées, puis je vais vous mettre au clair une idée avant de partir. 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, et tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Là, ça s'adresse aux chrétiens. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Je vais vous expliquer le point où je veux en venir. J'ai déjà entendu une doctrine qui disait, oh, tous les croyants, tous les saints, ils existaient déjà dans l'éternité avant. Puis qu'à un moment donné, Dieu a décidé de faire la création, puis après ça, il a envoyé ses enfants venir dans des corps humains. Jésus, ça en est un. Puis que tous les ceux qui sont sauvés existaient déjà dans l'éternité, puis qui sont nus en forme humaine, vivent leurs histoires, puis retourner dans l'éternité par après. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que ce qui est humain, l'homme animal, vient en premier. Fait que quand on a commencé à vivre en venant au monde, notre départ, Daniel Poulain a eu son départ le 16 septembre 1959 après Jésus-Christ.
Ça fait longtemps.
C'était là son départ. J'existais pas dans l'éternité. La Bible me dit l'homme animal, l'homme Daniel Poulain, parce qu'il appelle ça l'homme animal. Dans d'autres versets, c'est l'homme charnel. L'homme qui est l'homme tout court. On ne parle pas de l'homme spirituel. Il dit, ce qui est spirituel vient ensuite. C'est ce que ça nous dit dans ces versets-là. On a eu notre commencement à notre naissance. Puis après ça, on a vécu ce qui était spirituel ensuite, mais en deux étapes. Quelle est la première étape? On était animal. Quelle est la seconde étape? On est devenu spirituel. Quand ça, on est devenu spirituel? À la nouvelle naissance. Il a ressuscité notre esprit. Puis là, on a reçu l'Esprit Saint. On est des êtres ressuscités déjà en esprit. mais pas le corps. On n'est pas encore ressuscité, on est encore dans notre corps de corruption. Notre esprit ressuscité, ça vient en deuxième. On est des êtres éternels à partir du moment que tu nais de nouveau. Sauf que notre transformation n'est pas complète. La première affaire, il fallait qu'il vienne nous ressusciter dans notre esprit, dans notre âme, nous donner la vie éternelle comme cadeau gratuit qu'on méritera, qu'on n'a pas mérité et qu'on méritera jamais. C'est un cadeau qu'il nous donne par la foi. Puis on s'est repenti, puis on a demandé pardon, puis il nous a pardonné, puis il nous a donné son esprit afin qu'on vive éternellement. Son esprit est un gage, c'est un acompte en attendant notre résurrection. Mais on est déjà des êtres spirituels à cause de l'esprit qu'on a reçu. On a un contact avec l'esprit sacré. Puis nous, on marche avec lui à tous les jours. Puis là, il dit, au verset 49, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Pour les ceux qui ont été ressuscités, parce qu'ils sont nés de nouveau, qui ont reçu l'esprit, puis qui persévèrent dans ce chemin-là jusqu'à la fin, sans renier Jésus, là, ils vont faire partie de ceux qui vont vivre l'histoire céleste, l'histoire éternelle, l'histoire sans fin. On a des projets, dit Dieu, des projets, oui, des projets, il y en a, amenez-en des projets. Dieu en a des projets de longévité pour chacun des êtres ressuscités. C'est une vie sans fin qui nous attend, parce qu'on va vivre une histoire sans fin. Puis là, on gémit, puis on attend en espérance le jour qui va apparaître, puis qui va mettre un terme à notre corps de corruption qu'on supporte tous les jours. Mais le verset 50 qui nous dit, je vous le dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Votre corps terrestre ne peut pas vivre l'éternité. Votre corps, c'est un corps de corruption, un corps qui se blesse, qui se détruit, qui vieillit, qui a des blessures, des souffrances. C'est un corps qui se modifie, mais modifiant en se détruisant par le temps. Puis à un moment donné, on en meurt parce qu'il n'est plus capable de fonctionner. Puis ça dit que la chair et le sang ne peut hériter le royaume de Dieu. Fait que quand tu meurs, ton corps n'était qu'un véhicule pour le temps terrestre, t'as porté l'image terrestre, t'as juste un véhicule pour le temps terrestre, puis il faut que Dieu te donne un nouveau corps, un corps éternel qui va être capable de vivre l'éternité. On va être débarrassé de cette vieille carapace-là, qui est toujours attirée et vouée et tentée et manipulée et... Tu sais, par toutes les convoitises, puis les péchés, puis les débauches de ce monde, puis il va nous donner un corps à chacun de nous comme il le jugera. Mais vous allez rester vous-même. Moi, Daniel Poulain, je vais toujours être conscient de ce qui j'étais et qu'est-ce que je suis devant Dieu. Puis qu'il va m'amener, il ne faut pas un reset aussi de mon cerveau, sinon ça serait une autre personne, ça n'aurait pas valu la peine de vivre. S'il reset aussi notre cerveau, il aurait pu partir à zéro avec une création comme ça. Il veut donner la vie éternelle à ses créatures, c'est nous. On était appelés à faire partie de la famille éternelle, puis d'hériter les bénédictions dans la ville de tous les saints, où ils vont être réunis. Une fois notre corps ressuscité à l'enlèvement, pourrons-nous mourir à nouveau? Y a-t-il des versets qui en parlent? Oui, il y a des versets qui en parlent. Luc 20, 36. Jésus parle de la résurrection. Jésus lui-même a dit à ceux qui ont été ressuscités là, à première résurrection, « Ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Une fois qu'on va avoir été ressuscité, frères et sœurs, une fois que Dieu va nous avoir enlevés de notre corps corrompu, tout notre corps va rester là, flou, notre linge, tous nos biens même. Mais notre compte de banque va rester là. Tout ce qu'on a en notre possession, ça ne donne rien d'être avare, il faut être riche pour Dieu. Tout ce qu'on a sur la terre va rester là, puis va nous transformer en un instant, en un clin d'œil, à l'enlèvement. Puis la Bible a dit qu'on va être appelé véritablement, puis pas rien parce qu'on se le dit. La Bible le dit, puis les gens qui vont nous regarder vont nous dire, ce sont les fils de Dieu. On va être les fils de la résurrection. Puis on ne pourra plus mourir parce qu'on va être comme les anges de Dieu dans le ciel. Ça va être extraordinaire. Je sais pas si vous avez hâte de vivre ça, mais moi, je suis excité de vivre tout ça. J'ai hâte que ça arrive. Puis ceux qui meurent avant, mais vous êtes déjà dans un lieu de repos et de consolation qu'on a vu dans un autre verset. Mais il y en a que le délivrance va être qu'au jour du Seigneur. Fait qu'on va avoir à vivre sur la terre, puis endurer toutes les souffrances de notre corps, jusqu'à temps qu'on quitte ce corps, puis qu'on revête notre domicile céleste que Christ va nous donner. On va être semblable à lui. 1 Corinthiens 15, 53 nous parle de la même affaire. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comme j'ai dit tantôt, la chair et le sang, votre corps de présent, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il faut que ce corps qui peut se corrompre revête un corps qui ne peut plus se corrompre, un corps incorruptible, un corps qui ne peut plus se corrompre. On va avoir un corps qui sera nullement tenté par les convoitises du monde, par les convoitises du diable, ou nos propres désirs personnels de convoitises. Il n'y aura plus de corruption possible au niveau spirituel, puis il n'y aura plus de corruption au niveau de maladies, de souffrances, de vieillissement, puis de mortalité même au bout de notre vieillissement. Il n'y aura plus, ça va être un corps incorruptible, puis ça nous dit c'est un corps immortel, un corps qui ne peut plus mourir, un corps qui s'usera plus, qui souffrera plus, qui n'aura plus de maladies, qui n'aura plus de rien de ce qui est affecté présentement, de ce que nous sommes affectés présentement. Quand Jésus est ressuscité, il s'est montré à ses disciples, il pouvait manger avec eux autres, pouvait boire avec eux autres, pouvait lui parler. Il passait à travers les murs. Il pouvait plus mourir. Même si une armée avait lancé des bombes nucléaires sur lui, ça n'aurait rien fait. Il y a un corps éternel. Mais on va être pareil comme lui. C'est ça que la Bible nous dit dans plein de versets. Quels seront les changements importants de notre corps? 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps y est semé corruptible. Ça, on en parle depuis tout à l'heure, là, qu'on est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, avec des maladies puis des souffrances puis tout. Puis il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, comme j'ai dit, l'homme animal, le corps animal, c'est la première chose. Puis il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Qu'est-ce que je dois comprendre de tout cela? Mais autant que j'ai parlé de la corruption, on va avoir un corps qui ne se corrompt. Vous êtes semé méprisable aujourd'hui. Comment est-ce qu'il y en a qu'à pas tous les jours, mais régulièrement, il y a du monde qui vous regarde puis vous méprise. À cause de votre apparence, à cause que vous savez pas tout, puis que vous dites une parole, puis des fois ça n'a pas de bon sens la réponse qu'on dit, puis le monde nous ridiculise, puis il rit de nous autres. On est semé méprisable. Savez-vous que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages? Pensez-vous pas que vous êtes des tops dans ce monde? On est des deux de pique dans ce monde. Quand le monde nous regarde, c'est un homme religieux, il prie, il lit la Bible, c'est-tu un con? Il va venir fou s'il lit la Bible, puis on se fait mépriser. Bon, c'est dans le plan de Dieu qui nous sème méprisables, mais on va ressusciter glorieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter glorieux?
Pas de défaut.
Pas juste pas de défaut. Notre corps, quand Jésus, on le voit dans sa gloire, son corps est illuminé, hein? Resplendissant, qui sème la crainte, le respect. Parce que là, le monde se moque de Jésus parce qu'ils ne l'ont pas vu, mais qu'ils voient. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Même si c'était les bras gros de même, puis il se pensait le surhomme sur la terre, aux yeux de Dieu, il rit de ça, de la force des hommes, puis de la sagesse des hommes. Dieu, ça ne l'impressionne pas. Puis quand Jésus va apparaître, toutes les nations vont être dans la crainte et dans la peur que le jour du jugement est arrivé, puis la colère de l'agneau est arrivée, puis qui pourra subsister? Mais quand on va ressusciter, il dit, il va revenir sur une nuée avec ses anges puissants et tous les saints. Le ciel va être éclairé de sa gloire comme l'éclair part de l'Orient jusque dans l'Occident. Ça va illuminer la terre. Ce ne sera pas un enlèvement invisible. C'est un enlèvement glorieux où ce que la gloire de Dieu va se manifester et par l'éclat de son avènement, tellement que c'est éclatant son événement, il va détruire l'Antéchrist. Par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche, le feu va sortir de sa bouche puis va l'anéantir, et ainsi toute l'armée qui va t'avoir rassemblée à Jérusalem dans cette période-là, parce que c'est un rassemblement pour le jugement, c'est Armageddon, où ce que Dieu va juger les nations qui vont avoir avancé pour aller faire la guerre à Jérusalem. Cet antéchrist-là va être assis dans le temple, puis il va se dire qu'il est Dieu. C'est juste un homme. Il va se dire qu'il est Dieu parce qu'il va être en train de régner sur toute la terre. Dieu, ça ne l'impressionne pas. Par son éclat glorieux, juste par l'éclat de son avènement, ça va l'anéantir dans son orgueil. Puis il va être écrasé comme une punaise, cet antéchrist-là. Puis la Bible, elle nous dit dans un verset, il va être pris, puis il va être jeté dans l'étang de feu direct, sans passer au jugement. Il y a un verset qui le dit. Puis le faux prophète qui est avec lui aussi. Ça, c'est son jugement en retour du Seigneur. Mais je vous parlais de la gloire, c'est ça la gloire. Mais on va ressusciter glorieux. Le monde ne nous méprisera plus. Ça va être fini de nous traiter de non, puis de nous traiter d'insultes à cause qu'on est chrétien. On a... Ouais, ça, on n'en parlera pas là, aujourd'hui. Il y a trop étendu. Déjà, genre, plein de stock à dire. Quel est notre changement? On va ressusciter glorieux. On est semé infirme, on ressuscite plein de force. Il y en a qui sont en venant au monde qui ont des maladies, puis vivent avec leurs maladies ou leurs infirmités. On est semé infirme. On est semé dans un corps qui est privé de manger de l'arbre de vie qui nous aura régénéré. Fait qu'on n'a plus ce moyen-là que Dieu a donné au début à Adam et Ève. On en est privé, fait que notre corps, il se met à être malade et à dépérir. C'est sûr qu'on peut avoir des guérisons de Dieu. C'est comme des touches de Dieu dans notre vie, puis il nous donne des guérisons. Mais on n'est pas continuellement hors de toute maladie. Des fois, on souffre pendant un bout avant qu'il donne une guérison. Mais on espère, puis on crie en l'Éternel, puis on le sait que lors de son retour, ça va être le saut complet de notre guérison. En un instant, un clin d'œil, fini les souffrances. Un corps plein de force. Des fois, on est fatigué, on n'a pas de jus pour faire ce qu'on a à faire. Ça ne nous tente plus. Mais ce corps-là, il va être d'une énergie renouvelée sans arrêt qu'on n'aura jamais. On sera jamais à bout de nos forces pour faire ce qu'on aura à faire pour servir Dieu. Dans un état de plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort. C'est... Toujours en santé, en top shape, à 100%, en pleine capacité. Ça va être extraordinaire. On a été semé corps animal, puis on va ressusciter corps spirituel. Un corps éternel immortel. Apocalypse 24. Ça, c'est une promesse de Dieu. C'est une chose qu'on va avoir dans ce nouveau corps-là. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et... La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 24? Ou 21, 4? Je ne sais pas, j'ai peut-être une erreur sur mon verset. C'est 21, 4, excusez. C'est 21. Dieu va essuyer toute l'âme de nos yeux, puis la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ça va être fini de souffrir, ça va être fini de mourir. Le deuil, c'est quand quelqu'un meurt. Ça va être de la peine que quelqu'un meurt. C'est ça le deuil. On a de la peine qu'un proche est mort. Il n'aura plus de ça, parce que la famille de Dieu, on va être une famille éternelle qui ne meurt plus. Fait qu'il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cri. Ah, il est mort! Ah! Puis des doutes, puis la souffrance qui est engendrée par tout cela. C'est fini.
Il
n'y aura plus de mort. On va être content de toujours se revoir sans arrêt. J'espère que vous êtes content de me voir.
Amen.
Parce que je n'ai pas fini de me voir.
Ah, oui.
J'avais l'éternité à me regarder. Dans mes défauts, peut-être, ou encore méprisables aujourd'hui, oui. Je vous l'avoue que j'ai des choses dans ma vie qui peuvent être méprisables. Mais je vais ressusciter glorieux. Puis vous allez être content de me regarder. Puis je vais être content de vous regarder parce que votre visage va illuminer. Vous allez avoir un corps glorieux. Puis on va être content de se voir, puis de content de vivre dans l'endroit où on va être. On va en voir des versets, des beaux versets là-dessus. Sera-t-il possible de fonder un foyer après notre résurrection? De se marier avec une femme, puis de refonder encore un foyer? Matthieu 22, 30. C'est Jésus qui donne la réponse. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Y'en as-tu qui sont déçus?
Non.
La sexualité n'existera plus pour les êtres ressuscités. La sexualité, c'était juste pendant qu'on était homme-animal, puis dans le but d'accomplir le premier commandement de Dieu qui a dit à Adam et Ève, allez multiplier et remplissez la terre. Fait que la sexualité servait juste au début dans le monde animal, dans la création présente, puis pour le but de multiplier sur la terre. On prend une compagne, un homme, une femme, on se marie, on fonde une famille. La sexualité servait juste à ça. Quand on va être ressuscité, on ne prendra plus de femme puis de femme de mari. Vous allez reconnaître votre femme, vous allez voir votre femme toute resplendissante, revêtue de gloire, et dans la joie extrême et dans le bonheur, sans aucune maladie, sans aucune souffrance, vous allez être content encore de la voir et de la serrer dans vos bras, parce que ça va avoir été votre partenaire sur la terre, celle qui vous accompagnait dans votre pèlerinage, mais ça va être différent après la résurrection. On ne l'aura plus comme femme, on va l'avoir comme fille de Dieu, sœur en Dieu, ou frère en Dieu, on va être la famille de Dieu. Fait qu'on va tous se reconnaître, puis se revoir, et être content de se revoir, mais on va être comme les anges dans le ciel, il n'y aura pas de reproduction. Je vais vous faire une petite parenthèse sur une mauvaise interprétation d'un verset. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat tout de suite, mais Jésus dit que les anges ne peuvent pas se reproduire, puis que nous, à la résurrection, on ne pourra pas se reproduire. Fait que réévaluer ou réanalyser le verset au début de la création dans Genèse, quand on dit « les fils de Dieu sont venus devant les filles des hommes, puis là, ils ont fait des enfants qui sont devenus des géants. Ce ne sont pas des anges. » Parce que déjà, dans ce temps-là, il y avait des gens qui marchaient par la foi, puis qui étaient appelés fils de Dieu. On n'a pas plus d'histoire que ça, mais c'est clair que ça ne peut pas être un ange qui a fait des enfants à un humain. Parce que les anges n'ont pas le système de reproduction de la vie comme les humains ont. C'est pas un ange qu'il faut interpréter ça. C'est pas les anges qui sont venus coucher avec les humains. C'est des gens qui étaient mis à part pour Dieu, qui étaient marchés par la foi. Puis le système de marcher par la foi, ça existait depuis le début de la création. Enoch, le septième depuis Adam, est un prophète de Dieu qui a parlé dans le nom de Dieu. La Bible nous en parle. Fait qu'il y avait des gens qui plaisaient à Dieu, qui marchaient par la foi, qui marchaient par l'Esprit et qui prophétisaient depuis le début de la création. Puis ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son fils de Dieu. Fait que c'était un fils de, des fils de Dieu, des gens qui marchaient par l'esprit, puis qui ont été attirés vers les filles des hommes, puis qui ont, ils ont été au-delà de ce qu'ils devaient faire dans leur vie dans ce temps-là, puis ça a donné une race de géants, puis ça a été, puis là après ça, Dieu a dit, toute chair a corrompu sa voix, puis c'est là qu'a envoyé le déluge. Même les fils de Dieu avaient corrompu leur voix. Mais faire une parenthèse que les anges ne peuvent pas, ils n'ont pas le germe de vie comme les hommes ont pour pouvoir féconder un ovule que la femme a pour pouvoir faire des enfants, fait que c'est une mauvaise interprétation. Le chrétien dans l'éternité, qu'arrivera-t-il suite au jugement dernier? J'ai parlé qu'il va y avoir notre résurrection, le règne de mille ans, Satan relâché, puis après la fin, il va être jugé dans les temps de feu, puis les humains vont ressusciter au jugement dernier dans le trône blanc, les humains qui ne servaient pas Dieu, puis ils vont être jetés eux aussi dans les temps de feu. Mais après ça, qu'est-ce qui va se produire sur la terre? Qu'arrivera-t-il suite au jugement dernier? Apocalypse 20, chapitre 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est 21? Bon, c'est 21. Ça m'arrive de me tromper. Voyez-vous que je ne suis pas parfait. Je vais l'être un jour.
Amen.
Là, il n'y a personne qui va rire de mes imperfections. Je ne suis pas parfait. Je le sais. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, qu'on est tous des êtres imparfaits. Si on veut se faire accepter, il faut être capable d'accepter les autres qui le sont aussi. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça c'est suite après le jugement dernier. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Qu'est-ce qui va arriver? Suite après que le jugement du diable a eu lieu, Dieu va rouler comme un vieux vêtement toute la création qu'on a présentement. Tout ce qu'on voit, l'univers au complet, puis la terre, et toutes le soleil, la lune, les étoiles, ça, les étoiles, c'est l'univers. Il va tout rouler ça comme un vieux vêtement. Ça va tout disparaître. Il va scraper cette création-là, qui en passant a été maudit à cause de l'homme. Puis là, Dieu va créer quoi? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un lieu qui va être habitable éternellement. Et une des caractéristiques qui est donnée là, c'est que la mer n'est plus. Ça ne sera pas exactement comme qu'on vit présentement. On va voir d'autres caractéristiques, il n'y a même pas de soleil qui éclaire dans cette nouvelle création-là. Ça va être un nouveau système que Dieu va créer où ce qu'on va vivre éternellement. Il va y avoir plein de choses de différentes, mais on n'a pas toutes les révélations. On regarde les passages, mais on voit d'une manière en surface. Comment il va, oui, puis quand il va avoir créé cette nouvelle création-là, il va avoir une ville qui va descendre du ciel sur cette nouvelle terre. On est rendu là. Apocalypse 20, le chapitre 2. Comment s'appelle la ville sainte et éternelle? 21. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Comment s'appelle la ville sainte éternelle? La nouvelle Jérusalem. Pourquoi que Dieu appelle ça la nouvelle Jérusalem? Parce qu'il y avait l'ancienne, puis qu'est-ce qu'elle symbolisait à l'ancienne? Hein?
Parce que le temple de Dieu était.
Oui, mais ça symbolisait quoi? La ville du grand roi. C'était prophétisé que la royauté serait à Jérusalem. Mais la Jérusalem terrestre, elle va être là jusqu'à temps que la terre existe. Tout va être scrappé. Dieu va en faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Différent, puis il va y avoir une nouvelle ville qui s'appelle encore la Nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu. Apocalypse 2:7, il y a un autre nom qui est donné à cette ville-là. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Comment est-ce qu'il y en a de monde qui disent qu'on s'en va au paradis quand on va mourir? Mais là, je ne veux pas briser votre bulle. C'est pas tout le monde qui s'en va au paradis après qu'ils vont mourir. Vous allez le voir dans les autres versets. Le paradis, c'est ce que le monde appelle le ciel. Mais en réalité, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est la nouvelle création. Puis qu'il va y avoir une ville sainte. Cette ville-là, elle s'appelle le paradis de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit au larron qui était sa croix? Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi que ça a été dit à lui qu'il serait dans le paradis qui est la ville sainte? Parce qu'il s'est repenti puis qu'il a reconnu que Jésus ne méritait pas ce qu'il a eu puis qu'il, tu sais, il a démontré publiquement sa foi, il a défendu Jésus face à l'autre. Jésus, il a pardonné ses péchés, puis il a dit, tu vas faire partie des élus. Il n'a pas dit ça à l'autre qui était à côté. Dans d'autres versets qu'on va aller lire tantôt, là, ça nous le dit qui va rentrer exactement. C'est pas tout le monde qui s'en va au ciel ou qui s'en va au paradis, dans le paradis de Dieu. Comment s'appellent les habitants de cette ville? Apocalypse 21, 9 à 10. Puis je vis les sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux. Il vint, puis m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, puis il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Comment s'appellent les habitants de cette ville? L'épouse, la femme de l'agneau. Pour ceux qui ne savent pas encore, Dieu le Père est en train de préparer une noce pour son Fils. Et tous sont appelés à la noce. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Puis dans la ville sainte, ceux qui vont être là, c'est ceux qui ont répondu à l'appel puis qui vont devenir l'épouse, la femme de l'agneau. La Bible a dit, heureux saints, on l'a vu dans l'autre, dans la dernière étude, heureux saints ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Ben Dieu fait des noces, puis il veut marier son fils à son épouse. Son épouse, c'est les rachetés. Tous ceux qui ont passé à travers la repentance puis ont cru en Jésus, ils vont être pardonnés de leurs péchés, puis ils font partie de ceux qui vont se marier avec Jésus pour devenir qu'un avec Jésus. Co-héritier dans tout ce que Dieu a fait pour Jésus, Dieu veut le donner à son épouse. Fait que vous voulez entrer, vous voulez aller au ciel, vous voulez aller dans le paradis, devenez une fiancée de Jésus tout de suite. Parce que si vous mourrez dans l'état de séparé d'avec Dieu, vous ne pourrez pas rentrer. Quelle est l'apparence de ses habitants? Daniel 12, 3, on l'a dit tantôt que c'était des êtres ressuscités, des glorieux, et ainsi de suite. Mais Daniel, il en rajoute. Je le trouve bon, ce verset-là. Je le connais par cœur depuis que je me suis converti. Il m'a frappé tout de suite, puis je l'ai. Ceux qui auront été sages et intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Qu'est-ce qui attend des serviteurs de Dieu qui vont vivre dans la ville sainte? Bien, ils vont briller comme la splendeur du ciel, puis d'autres vont briller comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Dieu dit qu'on est ressuscité méprisable, mais on va ressusciter glorieux. Glorieux, puis on va briller comme des étoiles. C'est-tu pas extraordinaire? Moi, j'aime ce verset-là. Non, c'est pas parce que c'était écrit dans Daniel, mais ça m'encourage, frères et sœurs, à persévérer, parce qu'il y a de quoi d'extraordinaire qui s'en vient. Beaucoup sont attachés aux choses de la terre, puis ils aiment les plaisirs de ce monde, puis ils pensent que Dieu n'est pas capable de créer de quoi encore plus beau que ça. Là, il s'attache à ça. Je veux pas longer tout ça. C'est tout beau ici. Je veux rester ici. On va vivre pendant 1000 ans encore ici. On va projeter encore un peu, mais Dieu va faire les recettes, tout ça, puis il va créer de quoi encore? Bien plus beau, bien plus glorieux, vous allez voir dans quelques versets. C'est extraordinaire, cette ville sainte, là où ce qu'on va vivre, le paradis de Dieu. Qui habitera avec les résidents de la ville sainte? Apocalypse 23. C'est peut-être 21, mais... J'étais parti sur le vin. Et j'entendis du trône une voix forte. C'est 21. J'ai des versets à corriger sur mon, dans ma page. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Pour ceux qui ne savent pas, le mot tabernacle veut dire « habitation ». Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Qui sera avec nous dans la ville sainte? Dieu lui-même. Pensez, parce qu'il y en a un autre verset que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À notre œil terrestre, là, on ne peut pas le voir. C'est impossible à notre œil terrestre de voir Dieu. Mais quand on va être ressuscité, on va être comme Dieu. Pas comme Dieu, mais comme Jésus. Puis on va voir Dieu face à face. On va vivre en contact permanent et le voir de nos yeux. Puis le contempler, puis l'adorer, puis se prosterner devant lui pour l'éternité et de vivre une histoire sans fin. Qui aura le droit d'y entrer? Apocalypse 21-27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas tout le monde qui va rentrer. C'est clair qu'il n'y a rien de souillé ou impur. À tous ceux qui se livrent à des choses abominables ou aux mensonges qui sont les faussetés, les fausses religions, il n'y a rien de corrompu qui va rentrer là. Juste ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses apôtres? Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. Pourquoi qu'il a été inscrit? Parce qu'ils ont été pardonnés de leurs péchés. Ils ont reçu la nouvelle naissance. Ils font partie des élus, font partie des saints, font partie de ceux qui ont tout l'héritage de Dieu dans les lieux célestes. Et là, on a déjà une part qu'on peut goûter présentement par l'Esprit de Dieu, des promesses de Dieu. Mais quand on va être ressuscité, on va obtenir pleinement tout ce qui fait partie des bénédictions éternelles que Dieu a préparées, c'est ceux-là les plus importants. Il dit, ayant les regards sur Jésus, attachez-vous aux choses qui sont en haut dans les cieux. Puis d'autres passages qui dit, ramassez-vous des trésors dans les cieux, ce qui n'a pas de teigne et la rouille ne détruisent point. Notre focus terrestre devra être dans les choses célestes, parce que c'est ça qui est le permanent. Ici, on a juste une petite vie temporaire. Il n'y a rien de ce qu'on ramasse ici qui va demeurer. Juste ce qui est fait pour Dieu va demeurer éternellement. Notre richesse, notre but de vivre devra être pour se ramasser des richesses éternelles. Premièrement, de passer par Jésus pour être sauvé. Ensuite, se ramasser des richesses qu'on va vivre éternellement. On va lire un grand passage. Je vais faire ça vite. Parce qu'il y a bien des réponses. Ça va être pour nous parler de la ville sainte en elle-même. La ville où est-ce qu'on va vivre éternellement dans cette ville-là, avec Dieu. Apocalypse 21-10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les 12... sur les portes, 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, puis afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Sa ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa hauteur, à sa largeur, et sa hauteur en était égale. Il mesura la muraille, et il trouva 144 000 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième sardonique. Là, il nomme, verset 21, « Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Wow! Quel était l'éclat de cette ville? Le verset 11. Ayant la gloire de Dieu. Cette ville-là, elle brille comme la gloire de Dieu. Bien sûr, plus loin, son éclat était semblable à une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Quelle était sa dimension? Le verset 16. 12 000 stades. Savez-vous comment que c'est grand, 12 000 stades? Oui. Qui a dit oui? 12 000 stades, c'est 1 500 000 de long. 1 500 000 de long, 1 500 000 de large, 1 500 000 de haut. Parce que la Bible, elle dit dans ce verset-là, elle a la même largeur, la même longueur, la même hauteur. Ça équivaut à 1 500 000. C'est quasiment du site en Floride, juste sur un pan. Il y a l'autre pan sur l'autre bord, puis aussi haut. Une ville immense, brillante, de la gloire de Dieu, ayant l'apparence à du cristal. Il y avait une muraille qui entourait toute cette ville-là. En quoi était construite la muraille et la ville, le verset 18? La muraille était construite en jaspe. Jaspe, c'est une pierre précieuse. Puis pourquoi qu'il aurait besoin d'une muraille puisqu'il n'y a plus d'ennemis? Le diable ne sera plus là, puis il n'y aura pas rien. C'est tout simplement pour symboliser la sécurité qu'on va avoir dans ce lieu-là. De quoi est formé le fondement de la muraille? Parce que la muraille, elle a un fondement, elle a une footing. Le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Puis là, il nomme un paquet de sortes de pierres précieuses. En quel matériau étaient les portes? Le verset 21. Une perle. La porte est une perle. Je ne sais pas si elle est ronde, si elle est carrée, une perle, je ne sais pas s'il y en a tous les modèles. Ça, moi, personnellement, les perles, ça ne m'a jamais attiré, mais je pense que ceux-là, je vais les trouver belles. Ils vont être brillants, lustrés. Il n'y aura pas de verre de gris autour. Ça ne sera pas du toc. En quoi Dieu a-t-il fondé la place de la ville? Parce que dans la ville, il y a comme une place qu'il appelle la place. C'est pas un restaurant. Nous autres, à Jotagui, on a le restaurant de la place. Mais une place, autrement dit, c'est comme une grande salle ou un grand parc dans le milieu. Où ce que tout le monde se réunisse pour aller jaser. Mais dans la place de la ville, au verset 21, en quoi Dieu l'a-t-il fondé? La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Fait qu'on va marcher sur l'or. Alléluia. Par quoi est éclairée cette ville? Le verset 23. Pardon? C'est la gloire de Dieu. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, puis l'agneau est son flambeau. Fait que, dans la nouvelle création, il n'y aura pas de besoin de soleil, ni de lune, puis il n'y aura plus de jour et de nuit. Ça va être le jour tout le temps. Qu'est-ce qui va faire qu'on est dans le jour? C'est la gloire de Dieu qui va éclairer, tout simplement. Tout ce qu'on va voir, c'est de la lumière, parce que Dieu est lumière. Gloire à Dieu, c'est beau. Qui d'autre marchera à la lumière de cette ville? Verset 24. Les nations marcheront à sa lumière, puis les rois de la terre y apporteront leur gloire. Parce que nous, les êtres ressuscités, on ne coûte plus la mort, ni la souffrance, ni les maladies, puis ainsi de suite. Puis il n'y aura plus de mal dans ce système-là, parce que le diable ne sera plus là. Que sortira du trône de Dieu, le verset 22, chapitre 22, 1, ça nous dit, un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Voir un fleuve d'eau de vie. Oui. Il est un fleuve coulant du trône de Dieu, du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. Mais c'est ça le grand fleuve qui nous attend, le fleuve qui est dans le paradis. Que trouverons-nous chaque bord du fleuve? Verset 22.2. Sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Parce qu'on a déjà vu des versets qu'on n'aurait plus ni maladie, ni deuil, ni souffrance, ni mortalité. Il va y avoir encore un arbre de vie, il va y avoir encore une histoire qui va se dérouler, une histoire éternelle, mais on n'en sait pas plus. Que feront les serviteurs de l'agneau? Nous? Verset 22.3. Ça dit, ses serviteurs le serviront. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Puis le verset 22.5, qu'est-ce qu'on va faire? Ils régneront au siècle des siècles. Ça symbolise l'éternité. Régner pour l'éternité. Moi, présentement, je connais pas ça, régner. Je règne pas sur rien. Même à mon travail, je conduis mon autobus, puis c'est juste ça. J'ai de la misère à contrôler les enfants. Dans l'autobus scolaire. Même dans ma maison, je règne pas. Mes enfants sont tous rendus vieux. On connaît pas ça, être un roi, puis régner sur une nation. Mais dans l'éternité, on va connaître ça. Puis il dit, il y en a qui vont régner sur 5 villes, il y en a qui vont régner sur 10 villes. On va être des rois et des seigneurs, puis on va exercer l'administration de Dieu sur toute la nouvelle création. On va régner pendant 1000 ans, puis on va régner pendant la vie éternelle. Dernière exhortation, dernier verset que je parle. Apocalypse 22, 14. C'est très important. Dieu, il n'est pas menteur, puis Dieu, il est juste. Il n'y aura pas, comme qu'on dirait en bon anglicisme, il n'y aura pas de bypass du monde qui vont passer par le châssis ou qui vont essayer de trouver un autre raccourci pour entrer dans ces promesses-là. Il y a un seul moyen d'y aller. Il n'y aura pas de passe-droit pour personne. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Il faut passer, frères et sœurs, par Jésus. Jésus, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne va pouvoir aller dans le paradis, dans le ciel, sans passer par Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut que tu passes par Jésus. Tu veux être sauvé? Tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Tu veux avoir la vie éternelle? Tu veux aller dans le paradis? Il y a un seul moyen. Il faut que tu mettes ta foi que Jésus a tout payé pour tes péchés. Puis que tu gardes la foi jusqu'à la fin. Puis il nous exhorte dans ce verset-là, « Heureux ceux qui lavent leur robe! » Avez-vous passé par le sang de Jésus pour être purifié par son sang? Confessez-vous encore vos péchés, vous avez tout mis ça en oubli. Gardez-vous votre relation à jour avec le Seigneur. Demeurez-vous dans ses voies, dans son chemin, où vous le croyez en dedans de vous-même, mais votre conduite est complètement dans le chemin large et resserré qui mène à la perdition. Parce que Paul le dit, il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix. Puis je le dis à votre honte que Paul dit. Il y a du monde qui marche, même s'il parlait à des chrétiens, mais il ne marchait pas dans les voies du Seigneur. Il marche en ennemi, en rebelle, dans toute le convoitise charnelle, puis dans les tentations du monde, puis dans les tentations du diable. Puis ils ne rejettent rien, puis ils ne prennent pas de position pour laver leur robe, puis continuer à se sanctifier. Il y a un autre verset qu'il dit dans ce même texte-là. Il dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, puis que celui qui est souillé se souille encore. Si ton cœur n'est pas droit, puis qu'il recherche les souilleux, mais pour Dieu, il ne peut rien faire pour toi et continuer à marcher dans tes souilleux. Mais si ton cœur est « je veux me sanctifier, je veux devenir un saint », je veux que Dieu me pardonne et me purifie. Et je veux continuer à me sanctifier tous les jours. Ça veut dire continuer à rejeter ce qui déplaît à Dieu, à fuir ce qui déplaît à Dieu, puis d'ajouter à ma vie ce qui fait partie du chemin que Dieu nous demande, dans le chemin de l'obéissance. Vous n'aurez pas tout à faire tout seul. Le Saint-Esprit va vous aider, mais il faut que vous vouliez marcher dans ce chemin-là. Si vous n'avez pas la volonté brisée, puis si vous n'avez pas le désir de suivre, vous allez sortir d'ici, vous allez tout oublier ce que je viens de vous dire, puis vous allez marcher encore dans votre rébellion, puis dans votre égarement en ennemi de la croix. Dieu appelle tous les gens qu'ils aient à se repentir et à mettre leur foi dans l'agneau de Dieu qui est venu pour enlever les péchés du monde. Puis cette foi-là, elle doit être en Yeshua, en Jésus son Fils. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer là-dedans sans saisir cela par la foi, demander pardon avec repentance, puis de s'engager à le suivre, à le servir, puis à se laisser diriger par son esprit, puis il va vous conduire dans les eaux de la vie qui nous attendent, une vie sans fin, une histoire sans fin, est-ce que ça va être le bonheur, la joie, l'amour, la félicité éternelle, puis la gloire qui attend tous ces serviteurs qui auront appris à mourir à eux-mêmes, à prendre leur croix et le suivre. Je fais un appel. S'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, qui se disent, ça en est assez, je veux prendre position publiquement, je veux accepter Jésus. Avant s'y voir en avant, Jésus dit, quiconque me confessera devant les hommes, c'est pas une affaire qui se fait en cachette là, d'accepter Jésus. C'est quelque chose que tu dois confesser de ta bouche devant des hommes, puis être prêt à avancer, puis le dire, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, puis je l'accepte comme mon Sauveur, puis je veux le suivre. Tu le confesses devant les hommes, Jésus dit, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Puis si vous, avez dans, vous êtes dans une autre condition, vous avez déjà accepté Jésus, mais votre cœur se refroidit, vous avez commencé à marcher, retourner dans votre ancienne vie, mais vous voulez vous remettre en règle, vous voulez marcher dans les voies du Seigneur, la Bible a dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Avancez en avant, je vais prier avec vous. Dieu veut vous renouveler. Il veut vous remplir de son esprit. Il veut vous guider dans votre marche. En autant que vous êtes repentant et sincère, il va le faire. Puis il va vous redonner encore un renouvellement. Tant que vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit, vous pouvez revenir à Dieu. Tant que vous n'avez pas reçu la marque de la bête, vous pouvez revenir à Dieu. Je fais un appel pendant que Clermont va nous préparer un chant. Vous êtes devant Dieu présentement. Ce n'est pas nécessairement devant les hommes, mais vous êtes devant aussi les hommes de Dieu, que Dieu a sauvés, puis qu'on fait partie de sa famille. Prenez position pour Jésus. Résistez pas. La première chose que vous devez faire, c'est de combattre votre chair qui dit, voyons donc, reste assis, tu n'es pas obligé de te lever. Je ne suis pas devant les hommes que je confesse. Oui, Dieu te demande de confesser devant les hommes. Puis là, il va nous confesser devant ses anges et devant le Père. Avancez-vous en avant, résistez pas, puis on va prier ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia.